Ces jours d'élection en Nouvelle-Calédonie, les 192 584 électeurs inscrits sur la liste spéciale provinciale devront désigner les membres des assemblées de province et ceux du Congrès qui seront élus pour 5 ans. Les bureaux de vote ouvrent dans une heure. Un bureau de vote endommagé par un incendie, des gendarmes caillassés la nuit de vendredi à samedi a été agité à l'île des Pins. Un jeune de 17 ans a été interpellé. Le Haut Commissariat a pris un arrêté pour déplacer le bureau de vote numéro 1 de la commune. Après 8 jours de chaleur intense, la canicule amorce enfin son recul en métropole. Les hôpitaux sont soumis depuis plusieurs jours à une pression extrême. Cela va encore durer, prévient le gouvernement en appelant à maintenir la vigilance. Le maire et les filles de Roubaix, David Guiraud, refusent de donner le nom d'une école à Samuel Paty. Vive polémique dans cette commune du Nord. Le sport, le rugby, c'est jour de finale au Stade de France. La finale du top 14, le Stade Toulousain rencontre Montpellier. À la pause, les Toulousains mènent 25-6 avec notamment 2 essais de P.A. Thomas Ovaka. Et puis en Calédonie, 2e journée de compétition à Bouraille pour la BCI des Vassans et Trail. Au lendemain de l'épreuve de VTT, les concurrents prendront part à une épreuve de course à pied sur 20 km. Bonjour, bon dimanche, soyez les bienvenus dans ce journal. C'est donc jour de vote en Nouvelle-Calédonie. 192 584 électeurs sont appelés aux urnes pour le renouvellement des assemblées de province.
RRB, élection provinciale 2026.
Ces 192 584 électeurs sont ceux qui sont donc inscrits sur la liste électorale spéciale provinciale, la fameuse LESP. Ils vont désigner les membres des assemblées de province, mais aussi ceux du Congrès, qui seront élus pour 5 ans. Et il n'y a qu'un seul tour de scrutin, Michael Juneski.
Le corps électoral provincial 2026 compte donc 192 584 électeurs, ce qui représente 11 433 électeurs supplémentaires par rapport à la liste qui avait été arrêtée le 30 avril, dont à 10 519 natifs qui ont été inscrits automatiquement. Un nombre d'inscrits qui a beaucoup d'importance. En effet, rappelons que pour participer à la répartition des sièges, une liste devra recueillir au moins 5% des inscrits. En province sud, il y a 127 474 électeurs inscrits. Pour participer à la répartition des sièges, une liste devra recueillir 6 374 voix. En province nord, il y a 43 016 inscrits et le seuil pour participer à la répartition des sièges est de 2151 voix. Et enfin, dans la province des îles, où 22 094 électeurs sont inscrits, une liste devra recueillir 1105 voix pour participer à la répartition des sièges. Concrètement, le scrutin de ce dimanche va permettre de renouveler les conseillers provinciaux. Ils sont 40 à constituer l'Assemblée de la province sud, 22 dans la province nord, 14 dans la province des îles. Cette élection détermine aussi la composition du Congrès. En effet, 32 des 40 élus du Sud siégeront également boulevard Vauban, ainsi que 15 des 22 élus du Nord et 7 des 14 élus des îles. Une fois installés, les élus du Congrès élisent les membres du gouvernement dont ils fixent auparavant le nombre qui ne peut excéder 11 membres.
C'est donc une élection importante pour les institutions calédoniennes et tout se joue, on le disait, Michael, sur une seule journée de vote.
Un seul tour, c'est ce que les électeurs doivent avoir en tête le jour du vote, contrairement aux élections présidentielles, législatives ou municipales qui se jouent en 2 tours, sauf si une liste ou un candidat obtient la majorité absolue dès le premier tour. Les élections provinciales se déroulent sur un seul tour. Il s'agit donc d'un scrutin basé sur ce qu'on appelle la proportionnelle plurinominale, c'est-à-dire qu'au sein de chaque assemblée de province, les sièges sont attribués en fonction du pourcentage de voix obtenues par chaque liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne aux listes ayant obtenu le meilleur score.
Et pour ce scrutin, ce sont 23 listes qui sont en compétition. Il y en a 11 en province sud, 5 en province nord et 7 dans les îles.
Commençons par les 11 listes de la province sud. Il s'agit de la liste « Un autre monde est possible » de Milakulo Tukumuli, la liste « Kanaki pour tous » de Juanito Wamitan, la liste « France-Calédonie, une patrie » de Alain Descombelles, la liste « Une province pour tous, un pays solidaire, un avenir partagé » de Wallace Cotra, la liste Souveraineté Kanaki Nouvelle-Calédonie de Dominique Chazal, la liste Faire pays de Robert Kakoué, la liste Pour une Calédonie française d'Arnold Leck, la liste Nous réunis de Philippe Dunoyer, la liste Les loyalistes et le rassemblement Forts et unis de Sonia Baquès, la liste Unis pour le pays de Louis Mapou et la liste Un espoir pour demain de Pascal Lafleur.
En province nord, ce sont donc 5 listes qui sont en compétition. La liste Agissons ensemble pour pour le Nord, de Vanessa Wakiapo, la liste Alternative Nord pour un pays souverain, de Jeanne Mère-Rompon, la liste UCFLNKS de Pascal Sawa, la liste Faire Pays de Maurice Wakaawa et la liste Union Nationale pour l'Indépendance Unie de Paul Néaoutine.
Enfin, les 7 listes en lice en province des îles, la liste Palikaïl de Wali Waecha, la liste Un Nouveau Souffle de Karil Treniwa, la liste Baselaya de Bilo Railati, la liste Nations Autochtones d'Omera Neslin, la liste UCFLNKS Hill de Michael Forrest, la liste S'engager et œuvrer pour la prospérité de notre province et la souveraineté de notre pays de Joanne Pidja, et la liste Union pour construire dans le consensus de Jacques Lallier.
Alors, pour voter, un électeur doit être muni de sa carte d'électeur attestant qu'il est inscrit sur la liste électorale spéciale provinciale, mais elle n'est pas obligatoire. Il est conseillé toutefois de l'avoir avec soi. En revanche, il est obligatoire de présenter une pièce d'identité avec photo, carte d'identité ou passeport en cours de validité. À Nouméa, on va rappeler que 57 bureaux de vote de la commune sont regroupés sur 9 sites. À Païta, les 19 bureaux de vote sont regroupés sur 7 sites de vote. Les bureaux de vote ouvrent maintenant dans un petit peu moins d'une heure, à 8h, et ils refermeront leurs portes à 18h. Journée spéciale sur Radio Rythme Bleu, évidemment, qui va vous faire vivre ce scrutin au plus près. Toutes les équipes de la radio et plusieurs bénévoles mobilisés. Comme pour chaque élection, nous ferons des points de participation à 11h et 17h. Reportage également dans nos différents rendez-vous d'information. Et puis ce soir, notez-le, à partir de 18h30, notre grande soirée électorale. Les résultats de bureau de vote par bureau de vote, commune par commune, province par province, pour découvrir en temps réel la composition des nouvelles assemblées de province, mais aussi la composition du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Soirée électorale autour d'Elisabeth Noir et de Jean-François Bodin, avec nos consultants Ismet Kurtovic et Bernard Deladrière. Soirée qui sera à vivre donc à partir de 18h30 sur notre antenne évidemment, mais aussi sur notre site internet rrb.nc et en Facebook Live. Vive indignation après les exactions survenues dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune de l'Île-des-Pins. Des locaux de la municipalité ont été la cible de dégradation ainsi que d'un début d'incendie. Les gendarmes sont intervenus sur place vers 0h30. Ils ont par ailleurs essuyé des caillassages alors qu'ils avaient retrouvé sur les lieux du sinistre un groupe de 5 jeunes visiblement alcoolisés qui ont pris la fuite. Un individu de 17 ans a tout de même été interpellé. Un local qui avait été mis à disposition d'Enercal a entièrement brûlé. Selon le procureur de la République, c'est ce site qui était la cible du groupe car les auteurs présumés ont volé 2 coffres-forts, dont un coffre-fort qui a été découvert fracturé à l'extérieur du bâtiment. Les dégâts et préjudices sont importants pour la municipalité. Écoutez, Régis Vendégout, c'est le maire de l'Île-des-Pins.
Le bureau Enercal, il a tout brûlé. Il n'y a plus rien qui reste. Documents, disques, livres, ordinateurs, tout a brûlé. Ils ont tout perdu. Le feu et la fumée ont porté sur le bureau de vote qu'on avait aménagé. Et donc le toit est tout noirci par la fumée. L'extrémité gauche de ce bâtiment a subi des jets de, pas de pierre, mais d'extincteur. On s'est servi d'extincteur pour briser ou arracher les barreaux et ensuite fracasser les vitres.
Et le maire de la commune qui a déposé plainte auprès des services de la brigade de gendarmerie de l'Île-des-Pins, on retrouve Régis Vendégout.
De l'indignation, surtout pour une collectivité qui est amenée à servir le public. Voilà qu'on l'a détruit en partie à la veille d'un scrutin important pour les territoires.
Donc vous avez décidé de réorganiser les bureaux de vote pour demain ?
Oui, très peu en primaire, les 1200 et quelques votants inscrits à ces bureaux de vote numéro 1, de se rendre à la cantine de Vaux. C'est un bâtiment municipal également.
Ah, vous l'avez entendu, la municipalité de l'Île-des-Pins s'est donc organisée hier, en lien bien sûr avec les services du Haut-Commissariat. Le Haut-Commissariat qui a dû prendre un arrêté pour déplacer le bureau de vote numéro 1 à la cantine du village de Vaux. Décision prise car l'électricité n'est plus disponible à la mairie à la suite donc de l'incendie. Une enquête a bien évidemment été ouverte et les réactions ont été nombreuses hier à la suite de ces exactions, Michael Genesky.
Oui, le maire de l'Île-des-Pins parle d'un acte inadmissible, qualifiable, et il demande encore un renforcement immédiat de la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a aussi condamné avec la plus grande fermeté ces faits qui portent atteinte à un service public essentiel de proximité. La grande chefferie de Coigny indique encore que, je cite à nouveau, « aucune justification ne peut être trouvée à un tel acte, aucune cause ne saurait l'expliquer ni l'excuser ». Le député de la deuxième circonscription, Emmanuel Tchibaou, écrit pour sa part notamment « je condamne avec fermeté ces actes, rien ne saurait justifier la destruction d'un bien collectif qui appartient à tous les habitants de l'île ». Le procureur de la République, en plus des éléments concernant l'enquête, a également indiqué que le parquet et les enquêteurs entendent déployer avec détermination toutes les investigations utiles à l'identification des auteurs de ces exactions qui constituent des actes intolérables commis au préjudice de la commune et des forces de l'ordre, touchant ainsi les valeurs de la République et de plus la veille du scrutin provincial, moment important d'expression démocratique pour les citoyens. Fin de citation.
Allez, un peu plus léger, le 7e art à l'honneur à partir d'aujourd'hui au Ciné-City. Plusieurs films seront projetés jusqu'à mercredi le 1er juillet à 600 francs la séance. La fête du cinéma est un événement national qui est porté par la Fédération Nationale des Cinémas Français, relayée donc en Calédonie. L'occasion idéale pour profiter de toute la magie du grand écran à prix mini. Écoutez Douglas Hickson, le responsable du Ciné-City.
C'est surtout une opération qui permet à tout le monde de reprendre le chemin des salles pour voir des films à un prix particulièrement attractif de 600 francs pour quasiment l'intégralité des séances. Il y a quelques différences pour des séances exceptionnelles ou des salles différemment équipées. Mais c'est l'idée, c'est du cinéma pas cher pour qu'on renoue avec le goût du cinéma, qu'on soit adulte, enfant ou du troisième âge. Venez tous au cinéma de dimanche à mercredi.
Alors justement, une programmation spéciale pour le Ciné-City à cette occasion ?
Alors ce que l'on a fait, c'est qu'on essaie de maintenir des films qui sont sortis depuis quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'affiche, pour que ceux qui ont raté ces films, quelle qu'en soit la raison, puissent venir les voir une dernière fois avec tout le confort de la salle. Ah, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, du dessin animé pour enfants au film d'horreur pour les ados, en passant par le cinéma d'auteur et le cinéma français, le cinéma américain, le cinéma étranger. Enfin, vraiment, on a essayé d'avoir une offre très très large.
Douglas Hickson, le responsable du Ciné-City, au micro Radio Rythme Bleu de Kelinda Bouakou. Notez que l'événement était aussi relayé au cinéma de Dimbéa. La fête du cinéma, c'est donc jusqu'à mercredi. 7h13 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal à suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Jusqu'au vendredi 24 juillet, gagnez un Samsung S26 256Go et des Samsung Buds 4. Un cadeau d'une valeur de 129 900 francs offert par Mobile Mania. Pour jouer, c'est facile, vous envoyez chance au 4020. Téléphonie, informatique et multimédia, Mobile Mania, c'est 5 magasins. Centre-ville, Place des Cocotiers, Galerie Nouméa Centre, Magenta, Sainte-Marie et Robinson. Toutes les actus sur Facebook, Mobile Mania, vive et mobile. Pour jouer, envoyez chance au 4020. Tirage au sort le 24 juillet à 14h, 371 francs le SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal d'actualité en métropole avec Lionel Sabot.
Et après 8 jours de chaleur intense, la canicule amorce enfin son recul en métropole. 37 départements sont toujours toutefois en vigilance orange canicule. Les conséquences des fortes chaleurs se font bien évidemment ressentir, en particulier dans les hôpitaux qui sont soumis depuis plusieurs jours à une pression extrême. Et cela va durer encore, indique le gouvernement en appelant à maintenir la vigilance. L'afflux de patients dans les hôpitaux est bien supérieur à la normale. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Les hôpitaux publics parisiens alertent ainsi sur une hausse de 80% des appels au SAMU cette semaine, ce qui se traduit par 50% de patients en plus dans les services d'urgence. À une tension également en médecine générale et en réanimation, comme l'explique le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière.
Dans le service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, nous avons déjà accueilli 11 patients victimes de coups de chaleur graves et nous déplorons déjà un décès.
Des hôpitaux saturés un peu partout en France et parfois mal adaptés à la chaleur. Ainsi, au CHU de Toulouse, la température dépasse 35 degrés dans les couloirs, tout comme à Strasbourg où plusieurs soignants ont fait des malaises. Et pour gérer l'afflux de patients dans ces conditions, il n'y a parfois pas d'autre choix que de les placer sur des brancards faute de mieux. C'est le cas à l'hôpital Lariboisière.
Une durée de séjour sur brancard plus prolongée. Mais nous faisons le maximum pour réduire cette durée et pour rapidement transférer le patient vers des chambres. Nous avons reçu en renfort un certain nombre d'appareils d'air conditionné mobile et certaines salles mieux disposées, dédiées à d'autres activités comme des salles de réunion, ont été aussi transformées en salles d'accueil de patients.
Dans cet hôpital parisien, 20% des actes jugés non urgents ont également été déprogrammés. Si la vague de chaleur touche à sa fin, la tension hospitalière se fera ressentir pendant quelques jours encore.
Wilfried de Villers pour Europe 1. La canicule qui a également des conséquences sur l'économie. Alors à court terme, la productivité est en baisse en période de forte chaleur. Et à moyen et long terme, la croissance est entravée et l'inflation augmente. De bien mauvaises nouvelles alors que l'économie française est en berne. Écoutez l'économiste Benoît Perrin, c'est le directeur de Contribuables associés.
C'est une très mauvaise nouvelle, parce qu'on sait déjà que la croissance française ne va pas bien. Donc la situation de fond est mauvaise. On sait qu'au premier trimestre 2026, on était à moins 0,1% de croissance, ce qui n'est évidemment pas bon signe. Quand on regarde ensuite les indicateurs avancés de l'économie, je pense notamment au climat des affaires qui permet d'anticiper en quelque sorte la croissance. Là, on est à un chiffre en dessous de la moyenne depuis 25 mois, donc ce qui est quand même très important. Quand on regarde le climat de l'emploi, c'est pareil, les chiffres ne sont pas bons. En l'occurrence, le chiffre n'a jamais été aussi bas depuis 2013. Et maintenant, se surajoute à cette situation de fond qui n'est pas bonne, la canicule, dont on sait, vous venez de le dire, qu'elle a des effets négatifs sur l'économie à deux titres. Un, parce que ça baisse la productivité, c'est-à-dire que ceux qui travaillent, y compris devant des ordinateurs, travaillent moins bien. Et puis, deuxième impact négatif, c'est qu'on travaille moins. Évidemment, on pense au BTP, on pense à l'agriculture, on pense naturellement au tourisme, qui sont des activités qui sont très tributaires, bien sûr, du temps qu'il fait dehors. Et donc, du coup, dans un pays qui a vraiment un problème structurel de croissance, se surajoute ce problème de canicule, ce qui est donc évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'économie française.
Benoît Perrin, directeur de Contribuables associés, invité d'Europe 1 Week-end. Et illustration de cette baisse de la consommation en période de forte chaleur, les soldes d'été ont débuté mercredi en métropole. Oui, mais voilà, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au cœur de Paris, avec la chaleur, il n'y a pas grand monde dans les boutiques. Mathis Lang pour Europe 1.
Moins 30, moins 50%, les soldes s'affichent en grand sur la vitrine de la boutique de Sophie dans le 16e arrondissement. Cette commerçante de 80 ans se réjouit de la prolongation des soldes, estimant que le gouvernement a entendu les revendications des commerçants.
Pour une fois, on aurait pu s'en foutre, hein, mais bon, c'est très bien, c'est une bonne initiative, on vendra peut-être un peu plus.
Depuis le début des soldes, la commerçante a du mal à garder le sourire. À cause de la chaleur, sa boutique est déserte.
Hier, j'ai vendu deux robes, enfin bon, moi je considère qu'il n'y a personne. C'est partout pareil. Il n'y a personne dans les magasins.
Et le constat est le même un peu plus loin dans le 15e arrondissement, malgré de belles promotions.
Les baskets, moins 30%, les sacs aussi, moins 30%.
Jennifer tient une petite boutique d'accessoires dans une rue d'ordinaire très fréquentée.
Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a personne dans les rues. Du coup, j'ai pas eu grand monde cette semaine, c'était catastrophique.
Et même pour ce premier week-end des soldes, les clients ne se pressent pas.
Aujourd'hui, nous sommes samedi, j'ai eu une cliente.
Alors qu'il est
16h33. Pas continuer comme ça.
Le prolongement des soldes donne à Jennifer un peu d'espoir, même si elle redoute toujours dans les semaines à venir une nouvelle canicule.
Mathis Lang pour Europe 1. Dans l'actualité de ce dimanche matin également, cette polémique après que le maire et les filles de Roubaix, David Guiraud, a refusé de soutenir un vœu de l'opposition municipale proposant de donner le nom de Samuel Paty, ce professeur assassiné par un terroriste islamiste, à une future école de la ville. Le maire assure vouloir transmettre la mémoire de Samuel Paty, mais pas jusqu'à lui donner le nom d'un établissement scolaire. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Évidemment qu'on rend hommage à Samuel Paty, c'est ce qu'affirme David Guiraud. Le maire insoumis assure vouloir transmettre sa mémoire, condamner son assassinat et mieux protéger les enseignants. Pourtant, lorsque l'opposition propose de donner le nom de Samuel Paty à une future école, il s'y oppose. Selon lui, le problème n'est pas l'hommage, mais la méthode. Il accuse l'opposition de vouloir tendre un piège politique à sa majorité et qualifie le texte d'hypocrite, de manipulatoire et d'opération politicienne. L'opposition répond qu'aucune aucune nouvelle école n'avait été inaugurée ces 6 dernières années et que le futur établissement n'a toujours pas de nom. Pour elle, il s'agissait simplement de profiter de cette occasion pour rendre un hommage concret au professeur assassiné. Résultat, le vœu est rejeté. La proposition de donner le nom de Samuel Paty à cette future école est écartée.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Quelques mots de l'actualité à l'étranger. Au Proche-Orient, le groupe terroriste Hezbollah rejette l'accord cadre signé entre le Liban et Israël sous l'égide des États-Unis. Le chef du Hezbollah qualifie cet accord de grave erreur, le qualifiant de texte humiliant, nul et non avenu. L'organisation terroriste qui estime que le seul protocole d'accord conclu entre Washington et Téhéran doit s'appliquer au Liban. Et puis au Moyen-Orient, l'Iran accuse les États-Unis de violer le protocole d'accord qui devrait mettre fin à la guerre entre les deux pays. Accusation après des frappes sur des sites militaires iraniens. Téhéran a riposté en visant des cibles américaines dans le Golfe. L'Iran qui menace d'intensifier sa réponse, faisant craindre de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz. Il est 7h21, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive, mais aussi la météo de votre dimanche.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Entreprises, cabinets juridiques, collectivités, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information.
La fin de votre journal, le sport avec Lionel Sabot.
Et à la une de l'actualité sportive, le rugby et ses jours de finale pour le championnat de France élite.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le titre en Top 14 qui se joue en ce moment même au Stade de France entre Toulouse et Montpellier, Michael Juneski.
Et le score est de 25 à 13 en faveur de Toulouse. Après 45 minutes de jeu, les Calédoniens de Toulouse qui ont brillé dès l'entame de match, Peatou Mwavaka notamment, auteur d'un premier essai dès la 6e minute de jeu sur fin de passe, cadrage, débordement, une action de grande classe pour ouvrir le score. Dans la foulée de la réduction du score sur pénalité de Montpellier, Mwavaka, encore lui, a récidivé en allant aplatir le ballon derrière la ligne d'en-but en conclusion d'une belle action collective. Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, s'est illustré à son tour avant la pause avec un troisième essai toulousain. Le Stade toulousain, triple tenant du titre, qui vise un quatrième sacre consécutif dans cet exercice, a tout de suite donné le tempo contre les Montpellierains qui, malgré leur deuxième place à l'issue de la saison régulière, savent que la reprise du bouclier de Brennus, déjà conquis en 2022, sera bien difficile. Aujourd'hui, les Toulousains de Mwavaka et Netti sont à 100% sur la pelouse du Stade de France, sous les yeux notamment d'Emmanuel Macron, le président de la République, présent pour cette finale. On joue la deuxième période, mais il apparaît clairement de plus en plus compliqué pour les Montpellierains de faire déjouer les pronostics face à la machine à gagner toulousaine. Tout n'est pas terminé, toutefois, pour le MHR qui peut tenter de sonner la révolte dans le deuxième acte. Encore une trentaine de minutes à jouer dans cette finale du Top 14 et Toulouse qui mène donc 25 à 13 contre Montpellier.
Le Sport Co encore et on va ouvrir notre page Coupe du Monde.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azure Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azure Piscine et Outdoor.
Et pour commencer, Mickaël, on va jeter un coup d'œil au match du jour. C'est la dernière ligne droite pour la phase de groupe.
Une bonne série de rencontres prévues ce dimanche. Dans le groupe L, l'Angleterre en tête affrontera le Panama, déjà éliminé, à partir de 8h. Au même moment, la Croatie retrouvera le Ghana. Les Croates qui ne sont pas encore assurés de jouer la suite du Mondial. Pour le moment, à la troisième place avec un bilan d'une victoire, une défaite. Là où le Ghana a signé une victoire et un nul. Dans le groupe K, à partir de 10h30, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Colombie, déjà qualifiée pour les 16e de finale, qui s'affronteront pour la tête du groupe. Dans ce même groupe, le Congo-Kinshasa, 3e de poule, retrouvera l'Ouzbékistan. Et puis à 13h, les dernières rencontres pour le compte du groupe J, l'Argentine de Léo Messi, championne du monde en titre, sera opposée à la Jordanie, qui n'a plus aucune chance de jouer la suite du mondial. L'autre rencontre mettra aux prises l'Algérie et l'Autriche. Pour le moment, avantage aux Autrichiens qui sont à la 2e place de ce groupe.
Et hier, l'équipe de France a terminé première de son groupe de qualification après une victoire 4-1 sur la Norvège. Les Bleus qui rencontreront en 16e de finale la Suède, ce sera à New York, un adversaire à la portée de l'équipe de France qui a conclu la phase de poule sur un sans faute, 3 matchs, 3 victoires. Guy Stéphan, l'entraîneur adjoint, ne pouvait pas rêver mieux.
3 matchs, 9 points, on nous aurait dit ça il y a un mois, on aurait signé tout de suite. Le troisième match est souvent compliqué, donc voilà, c'est beaucoup de satisfaction.
Beaucoup de satisfaction, d'autant plus que c'est arrivé 2 fois seulement dans l'histoire des Bleus. C'était à l'Euro 84 et à la Coupe du Monde 98. On se souvient des 2 victoires finales à la clé de ces compétitions. En finissant premier de leur groupe, les Bleus s'assurent aussi moins de trajets en avion que s'ils avaient fini deuxième. Un atout majeur en matière de récupération, explique Guy Stéphan.
On voulait tellement la première place pour des raisons aussi de logistique, parce que faire 45 minutes d'avion, c'est mieux que de faire 3h30 ou 4h en allant à Dallas.
La France-Suède, 16e de finale de la Coupe du Monde. Match à suivre mercredi, le 1er juillet, coup d'envoi de la rencontre à 8h, heure de Nouméa. Notez toujours à propos de l'équipe de France que ce dimanche est marqué par le retour de Didier Deschamps parmi les Bleus. Didier Deschamps qui avait dû quitter ses joueurs et le staff et rentrer en métropole en début de semaine à la suite du décès de sa maman.
Un match de Coupe du Monde, c'est une fête. Et chez Azur Piscina Outdoor, on vous aide à la célébrer en famille. Un barbecue qui grésille, les enfants qui s'amusent dans le trampoline et vous qui suivez les matchs sous votre pergola ou les pieds dans l'eau de votre piscine. Tout est chez Azur Piscina Outdoor. 46 42 42.
Allez, on va ouvrir à présent une page de sport mécanique et on va commencer avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et c'est le Britannique George Russell sur Mercedes qui a signé la pole position du Grand Prix d'Autriche, Michael.
Oui, à l'issue d'une Q3 à suspense, George Russell a arraché cette pole position devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes a réussi le meilleur temps dans une certaine confusion puisque Max Verstappen était sorti de la piste un peu avant son passage. La bataille entre les Mercedes et les Ferrari semble en tout cas bien lancée. La flèche d'argent partira devant les 2 monoplaces de la Scuderia. L'autre Mercedes de Kimi Antonelli, actuel leader du championnat du monde, ne s'élancera que de la 4e position, juste devant Max Verstappen. Les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri seront en embuscade aux 6e et 7e places, alors qu'Isaac Hadjar, le français, partira de la 8e position. Pierre Gasly et Esteban Ocon, les autres tricolores, seront hors du top 10 sur la grille de départ, respectivement 11e et 15e position. Le Grand Prix d'Autriche sera à suivre ce soir à partir de minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport mécanique toujours avec la MotoGP et l'Espagnol Raúl Fernández qui a remporté la course sprint du Grand Prix des Pays-Bas. Le Français Fabio Quartararo s'est classé 10e. Un autre Espagnol, Jorge Martin, a signé la pole position pour la course principale qui est prévue ce soir à 23h, heure de Nouméa. En rallye, nous sommes en Grèce ce week-end. Le rallye de l'Acropole, 8e manche du championnat. Il y en a du monde et l'écart qui se resserre entre le leader du classement à l'issue des 13 premières spéciales, le Belge Thierry Neuville et le Français Sébastien Ogier. Il ne reste plus que 4 spéciales à disputer ce soir. Venons-en au sport en Calédonie avec la 2e journée au domaine de Deva pour la BCI Deva 100 et Trail. Après le VTT hier qui a rassemblé 200 participants, place aujourd'hui au Trail avec 3 parcours dont la 4e étape du Punch Power Trail Pro Tour. Près de 300 participants sont attendus. Julie Prenet qui est co-gérante de Pro Events.
Le premier départ donc de la 4e étape du Punch Power Trail Tour se fait à 8h et ensuite on enchaînera sur les autres parcours pour avoir une remise des récompenses pour midi, pour que tout le monde puisse aller voter après.
On le rappelle, sur le domaine de Deva, il y a des tracés tout neufs et des très belles vues aussi.
Oui, on remercie d'ailleurs la SEM pour avoir fait tout le travail en amont sur les parcours. On a amélioré des endroits, ils ont travaillé à fond dessus pour que tous les parcours soient vraiment accessibles et de bonne qualité pour tous.
Et le départ du 20 km, l'épreuve à Rennes organisée par Pro Events sur les sentiers du domaine de Deva sera donc donnée à 8h. Il y a aussi de la natation, Mickaël, avec le 3e meeting de la saison dans les bassins de Coutiouf.
Une compétition qui se déroule surtout en présence présence de nageuses et nageurs venus d'Australie. 16 jeunes du Pelican Waters Caloundra Swimming Club. Ils sont en camp d'entraînement cette semaine sur le territoire. Une belle opportunité pour nos jeunes représentants de se confronter à de sérieux clients, comme nous l'a dit Kenzo Medaltakase de l'Olympique Nouméa, vainqueur hier du 200 mètres papillon.
Je vois quand même qu'ils sont assez sérieux. Même à l'échauffement, dès à l'échauffement, je vois qu'ils sont tous en groupe dès l'échauffement, et puis dans les courses en compète, ils sont là, quoi. Ils sont là pour faire la course avec les Calédoniens, donc ça fait plaisir d'avoir de la concurrence un peu des étrangers. C'est équilibré, enfin je peux dire chez les Australiens surtout, c'est des très jeunes nageurs qui sont là à venir nous chercher, qui font des très bons temps, donc franchement ouais, c'est sympa d'être en concurrence, d'être en bataille un peu avec eux.
Les duels Calédonie-Australie ont livré du beau spectacle, notamment sur le 50 mètres nage libre, où les Calédoniens Emmanou Marquet, Noah Bonhomme et Noah Vincendo ont devancé sur le podium les Australiens Zane Paolo Emilio et Archie Balderson. Les épreuves se poursuivent ce dimanche.
Et hors du territoire, il y a aussi de la natation avec les championnats de France en grand bassin qui se déroulent à Saint-Etienne dans la piscine où votre serviteur a appris à nager. On signalera notamment que le Calédonien Étienne Duménil s'est classé 7e de la finale du 50 mètres papillon. Maxime Grousset est forfait en raison d'une blessure au pied qui l'empêchera également d'être présent au championnat d'Europe. On termine avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Eh bien écoutez Lionel, c'est un dimanche d'hiver calédonien. Ce matin, des nuages seront présents sur les Loyautés et sur la pointe sud de la Grande Terre. Partout ailleurs, le ciel restera bien ensoleillé. Une averse restera possible du côté des Loyautés. Le vent, quant à lui, de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds sur l'ouest et autour de 10 nœuds sur l'est. Cet après-midi, les nuages deviendront plus nombreux sur la chaîne avant de déborder vers la côte est. L'ouest conservera un temps bien ensoleillé, avec tout de même un petit bémol sur le sud-ouest où une averse pourra se produire sur son extrémité. L'alizé de sud-est se renforcera en cours de journée pour atteindre souvent entre 15 et 20 nœuds, et notamment sur la côte ouest. Côté température, quant à elle, les maximales resteront bien de saison autour de 23 et 24 degrés.
Merci Pierre. Dans une demi-heure, il sera 8 heures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.